bonne feuille. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Jugand, de Jérôme Leroy. Aux éditions de la Table Ronde.
Ce que je vais lire est le début d'un roman de Jean-Claude Pirotte qui s'appelle Fond de cale. Une hirondelle ne fait pas le printemps. J'étais parti comme un fou, au volant de ma voiture, et j'avais dépassé le carrefour de Mazagran lorsque l'oiseau s'est jeté sur le garde-boue avant gauche, à hauteur du phare. Je roulais à toute allure, comme si j'avais été poursuivi par 1000 gendarmes ou 100 000 remords. Plus tard, je découvrirai une plume frémissante, piquée entre le verre et le cercle de métal chromé qui entoure le phare. Aujourd'hui, cette petite plume grise et poussiéreuse est toujours là, dans la boîte à gants, en compagnie de ce qui me rend suspecte mon identité. Deux ou trois photos jaunies, une lettre inachevée à Sonia, une police d'assurance périmée. Cette boîte à gants est devenue la fosse commune d'un passé sans chair. Peut-être aussi la tombe du printemps, de tous les printemps. Mais peut-on jamais savoir? Je n'ai pas voulu tuer l'hirondelle. Aurais-je pu l'éviter? Dans l'ordre des choses, il serait inconcevable que d'autres printemps ne soient pas annoncés par d'autres hirondelles, plus circonspectes et qui volent moins bas, malgré la douce coloration de l'aube à l'horizon du plateau, du côté des friches confuses qui bordent l'Argonne. Jean-Claude Pirotte, Fond de cale. Ce que j'attends de la première phrase d'un roman, dans l'idéal, ça serait effectivement... je ne sais plus qui disait que c'était un don des dieux, mais ça serait évidemment de assez naturellement captiver le lecteur, mais dès la première phrase. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des romanciers qui, au contraire, essayent d'éloigner le lecteur, on peut le comprendre dans les... pour que le lecteur mérite la suite, en fait, avec des premières pages parfois un peu obscures ou qui tournent autour. Moi, j'aime bien entrer presque dans le vif du sujet. Tout de suite, toujours. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vient du roman noir aussi. Jean-Claude Pirotte, c'est à mon avis quelqu'un de pas assez connu, qui est mort en 2013. Un poète, un romancier aussi. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, me touche beaucoup parce que c'est un romancier de l'errance, de la fugue, de la cavale. Et puis aussi, il est un peu lié au roman noir, ce qui fait partie de mon esthétique, puisqu'il était avocat en Belgique et il a été accusé d'avoir favorisé l'évasion d'un de ses clients en 75. Et donc, il s'est réfugié en France et perdu en France, d'ailleurs, de ville en ville. Et il n'est jamais rentré.
On va entendre Jérôme Leroy qu'il y a des similitudes très fortes entre ce début de roman de Jean-Claude Pirotte que vous venez de nous lire et votre propre roman, Jugand, qui paraît aux éditions de la Table Ronde à la rentrée littéraire.
Deux ou trois fois par an, je rêve de Noirbourg. Je me demande si je ne devrais pas m'en inquiéter à la longue. Je vais avoir 40 ans et ces événements se sont déroulés au début de ce siècle, il y a plus d'une décennie, l'année où j'ai entamé ma carrière de professeur de lettres classiques au collège Barbet d'Orville. En parler, par exemple, à mon médecin ou au frère de ma femme qui est psychiatre. Si on y réfléchit bien, j'ai été mêlé à cette histoire de très près. J'ai eu les tympans déchirés par les coups de feu, j'ai été éclaboussé par le sang de Clotilde, j'ai dû consoler des adolescents aussi terrifiés que moi. La mode n'était pas encore à ces cellules d'assistance psychologique que l'on voit partout aujourd'hui. Si c'est le seul prix à payer pour cette affaire, quelques rêves d'une année sur l'autre, je ne m'en tire pas mal. Au contraire, je m'aperçois avec le temps que chacun d'entre eux m'aide à mieux comprendre ce qui s'est passé à Noirbourg, par-delà la scène traumatisante que j'ai vécue, par-delà ce que je connaissais de ses protagonistes et ce que j'ai lu dans la Manche libérée et la presse nationale dans les jours qui suivirent. Mes rêves sont des puzzles. Ils ajoutent des pièces à un ensemble que je suis forcé, au réveil, de reconsidérer pendant la matinée qui suit, parfois même pendant toute la journée, avant que l'ensemble ne se dissipe et me laisse à nouveau en paix pour plusieurs mois. Si ces rêves devaient finalement disparaître, j'en serais triste. Cela signifierait que j'ai tout compris. Et je ne suis pas certain d'avoir envie de tout comprendre, d'avoir envie qu'Assia Rafa, son père Samir, Clotilde Mauduit, les gitans de la zone et bien entendu Joël Jugand disparaissent de mon paysage onirique, n'ayant plus rien à révéler de leur passion, de leur mystère, de leur violence. Ils auront été, malgré eux, à leur façon, la part de poésie et de sauvagerie dans ma vie si banalement rangée. En même temps, tout comprendre, enfin, et oublier. Je ne sais plus. En général, le moment idéal pour que les brumes et les pluies de Noirbourg reviennent me hanter, c'est lorsque je suis en vacances. Noirbourg ressurgit par contraste. Je suis un Normand, c'est-à-dire que j'ai besoin de quelques semaines par an pour oublier des mois de ciel gris et de crachin. Il me faut retrouver la plus pure des lumières pour recharger mes batteries. Et, depuis 3 ans, je vais en Grèce, dans les Cyclades, à Paros. Le bleu est partout et il est rafraîchi par le Meltemi. Cela permet à Nathalie, ma femme, et à Claire, ma fille de 4 ans, encore plus normande que moi avec leurs yeux bleus, leur blondeur viking et leur peau d'anglaise, de supporter la chaleur. Nous louons une petite maison sur les hauteurs de Naoussa. Un chemin poussiéreux mène à une plage peu fréquentée. Nathalie et Claire m'apparaissent comme sublimées par la lumière grecque entre ciel et mer. À l'horizon, la silhouette de Naxos et ses collines aux courbes presque féminines, comme celle d'une géante allongée de profil sur la mer, la tête reposant au creux de sa main. Je vois les corps de ma femme et de ma fille sur cette plage évoluer plus librement, retrouver une manière d'aisance originelle. Claire nage déjà comme un triton et vient régulièrement se coller contre moi, salée et fraîche, pour me demander avec des baisers mouillés dans l'oreille si je ne veux pas jouer avec elle, c'est-à-dire si je ne veux pas nous éclabousser en riant et en hurlant et mimer des attaques de monstres marins. Nathalie, de son côté, lit de gros romans policiers scandinaves et j'ai l'impression à la regarder allongée sur le ventre, le dos combré, le buste relevé et le visage penché sur son pavé imprimé, de voir une héroïne échappée du livre qui découvre ses propres aventures. Nous faisons évidemment beaucoup plus souvent l'amour que le reste de l'année et de façon plus élaborée, complice, sensuelle, voire un brin perverse. Nous retrouvons l'époque où nous sommes rencontrés dans la salle des professeurs du lycée Jeanne d'Arc à Rouen et qu'elle enseignait l'histoire-géographie. Pour moi, c'était la rentrée qui suivait Noirbourg et j'avais voulu oublier tout ça en vivant comme un étudiant pendant des années avec cette grande blonde sculptée par la gymnastique. Il fallut qu'elle insiste et même qu'elle menace un peu pour que j'accepte l'idée de me marier, d'avoir un enfant. Même un appartement dont nous sommes désormais, cela aurait fait frémir d'horreur Joël Jugan, les propriétaires. Ce matin, Gert, un Hollandais qui vit à l'année à Paros et nous loue la maison, est monté nous rendre visite avec son vieux 4x4 Toyota. Il venait voir si tout allait bien. Il nous apportait des serviettes et des draps propres pour la deuxième semaine de notre séjour, mais aussi un plein panier de citrons de sa propriété et du vin blanc de ses vignes dans de grandes bouteilles de 5 litres habillées d'osier. Il pense que Nathalie et moi buvons autant que lui. Il pense que tout le monde boit autant que lui, en fait. Son visage est ravagé par l'alcoolisme, couperosé à l'extrême, gonflé, tavelé, couvert de plaques et de bubons divers. Il n'en inspire pas moins une immédiate sympathie, une gentillesse et une bonté qui font oublier sa trogne. Elle empire avec les années, pourtant. Il inquiète un peu Claire, qui se cache dans les jupes de sa mère, quand il nous accueille à la sortie du bateau, ou qu'il vient nous voir et boire un canon, comme ce matin. Une fois, très fugitivement, sans doute parce que le soleil passant à travers les bougainvillées de la tonnelle avait éclairé d'une façon particulière sa crinière de cheveux blancs, je me suis surpris à lui trouver une ressemblance avec Joël Jugan. Mais Joël Jugan était infiniment plus défiguré, et quel que soit l'angle ou l'éclairage, il restait proprement monstrueux. En plus, il n'émanait pas de lui cette bonhomie rigolarde, mais plutôt un cynisme glacé, une amertume sarcastique, quelque chose de définitivement négatif, dont je n'ai jamais compris que je sois le seul ou presque à le percevoir. Si j'avais alors fait part de mes sentiments, on m'aurait répondu que c'était par un préjugé dû à ce visage, justement, que je ne valais pas mieux que les flics, les juges et les notables de Noirbourg qui refusaient d'oublier qui avait été Joël Jugan. Je n'ai jamais rien dit, évidemment. J'étais un prof débutant et timide. Et puis, qu'est-ce que cela aurait changé? On s'est installé sous la tonnelle, à l'ombre, Gert, Nathalie et moi. J'ai rapporté des olives et des verres. Le vin était mauvais, mais devenait buvable si on y ajoutait quelques glaçons. On ne disait pas grand-chose, on regardait la mer, on aurait pu passer l'éternité, comme ça, dans le bleu. À un moment, Gert a demandé où se trouvait Claire. Nathalie a répondu qu'elle devait jouer dans sa chambre. Ensuite, après 2 ou 3 autres verres, il a dit, en crachant un oeil d'olive dans une plate-bande où fleurissaient des lauriers roses, que la météo annonçait une chute du vent dans l'après-midi et que les températures allaient monter en flèche. Il faudrait faire attention à la petite. La nuit allait être très chaude. On ne descendrait pas en dessous de 38 degrés. Il se proposait de rapporter des ventilateurs. J'ai compris que la nuit caniculaire qui allait venir, où j'aurais le sommeil agité même après avoir fait l'amour avec Nathalie, même en prenant un somnifère pour m'assommer, serait celle où j'allais, de nouveau, rêver de Noirbourg. Ce roman, en fait, est un... pas un remake, j'aime pas le terme, un remix peut-être, d'un roman de Barbé d'Urville qui s'appelle L'Ensorcelé, qui pour moi est une histoire extraordinaire, sur un roman qui m'a profondément marqué, que j'ai lu, relu, au point que ce roman est peut-être un moyen de me débarrasser de l'original. Et donc j'ai transposé l'intrigue aujourd'hui, de manière quand même parfois très éloignée malgré tout. Mais l'essentiel est là parce que c'est un roman qui tourne autour de la monstruosité. De la monstruosité à la fois physique, comme dit Barbé, physique, c'est un monstre physique comme au moral. Jugant. Parce que oui, il y avait l'idée, Barbé d'Urville était assez opposé au romantique, par exemple Hugo, qui disait oui, mais quand on est très très laid, parfois, on peut être quelqu'un de très très bon, Quasimodo ou l'homme qui rit. Jugant, qui dans le roman de Barbé, c'est un abbé, il s'appelle Joël de la Croix Jugant, lui, c'est un monstre physique comme au moral, c'est-à-dire que les choses sont claires, il est du côté du négatif, c'est un mot que j'emploie dès les premières pages.
La transposition d'un roman d'une époque à l'autre, et évidemment d'un auteur à l'autre, mais en l'occurrence d'une époque à l'autre, pose quel type de problème ?
Je pense que des très très bons romans, des très grands romans comme L'Ensorcelé, prennent la dimension d'un mythe. Et un mythe, ça devient atemporel, un mythe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut réaménager sans cesse. Enfin, pensant à Giraudoux, par exemple, ou des choses comme ça. On est dans une... Le mythe, c'est quelque chose qui peut se relire dans différentes époques. Par exemple, Jugant, dans le personnage, est un ancien d'un groupe armé d'extrême-gauche, alors que le Jugant, enfin, Joël Lacroix Jugant, dans L'Ensorcelé, était un prêtre qui était un ancien chouan. Voilà. Donc c'est à chaque fois aussi des types qui étaient très engagés avant, jusqu'au fanatisme, et qui ne s'en remettent pas une fois que les événements sont terminés.
Pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie d'écrire sur un personnage négatif ?
Parce qu'ils sont beaucoup plus intéressants que les autres, de toute façon. C'est-à-dire que je crois que les personnages monstrueux sont complexes. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont monstrueux par essence. Je pense pas. Je suis persuadé que des hommes sont capables de faire des choses monstrueuses, mais ça ne les définit pas a priori comme des monstres. Justement, c'est beaucoup plus inquiétant parce qu'ils sont humains.
Il me semble que de livre en livre, vous êtes en train de créer un genre à lui-même qui serait de cet ordre-là. Je ne sais pas comment on pourrait le caractériser.
Je sais pas, oui, c'est peut-être un roman de... Je pense faire ce qu'on appelle au sens large du roman noir. Mais c'est un roman qui, justement, veut comprendre le noir pour revenir vers une forme de lumière. Et c'est pas un hasard si le narrateur explique que c'est dans la lumière grecque qu'il arrive à comprendre ce qui s'est passé dans les brumes de ce Cotentin, les brumes et la pluie de ce Cotentin où il a commencé sa carrière. Et puis les lieux en eux-mêmes sont des histoires. Blanchot avait une phrase que j'adorais, « Rien n'a eu lieu que le lieu ». Voilà.
Noirbourg existe ?
Non, Noirbourg c'est un mix de, on va dire, de Cherbourg, de Saint-Lô, de Coutances. C'est un peu la ville archétypale du Cotentin, c'est-à-dire voilà, qui est battu par les vents, qui est une ville, une petite ville, avec tous les attributs d'une petite ville, mais qui est encore cernée par des éléments originels, et notamment la lande, et puis la mer, pas très loin.
A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall. In dreams, you're help it if I cry. I remember that you said
qu'elle raconte cette chanson, Jérôme Leroy ?
C'est une chanson assez emblématique de qui est Roy Orbison. Je l'ai découvert en fait dans un film de David Lynch qui s'appelle Blue Velvet et qui est aussi un film sur le mal et sur un personnage relativement naïf ou candide comme mon narrateur qui est confronté au mal. Et cette chanson qui est pleine de douceur, de mélancolie, qui est une chanson qui raconte comment justement après une histoire d'amour ratée, on continue à le chanteur, enfin le narrateur si je puis dire, continue à la vivre dans ses rêves. C'est exactement l'univers de Roy Orbison et ça contrastait avec la violence, la noirceur de ce film. Et là aussi, si je l'ai choisi, c'est parce que bon, d'abord c'est Roy Orbison, et puis encore, je vous dis, c'est associé au film Blue Velvet. Puis c'est aussi parce que c'est une chanson qui, il y a un mot un peu pompeux pour ça, mais c'est une chanson hypnagogique, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient les rêves hypnagogiques, c'est les rêves qui permettaient de connaître. C'est pas seulement des rêves prémonitoires, c'est des rêves qui permettent de mieux comprendre le réel et la réalité. C'est-à-dire que le rêve n'est pas comme très souvent vécu comme une confusion ou comme quelque chose qui est à interpréter, mais au contraire comme quelque chose qui réagence le réel et qui vous indique quoi en penser. Parce que le rêve nous donne un rapport différent au temps. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez eu un chagrin d'amour et que vous continuez à rêver à la personne un gros chagrin d'amour et que vous continuez à rêver à la personne que vous avez aimée à une époque, dans vos rêves, elle a toujours le même âge. Donc ça instaure un autre rapport au temps.
Merci Jérôme Leroy.
Merci.
C'était Jérôme Leroy qui présentait son roman Jugant, qui paraîtra aux éditions de la Table Ronde. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Éric Boisset.